body look good and you know you have the God bless. Rock wide.
Les grandes expéditions scientifiques. Le radeau des cimes, Arnaud Contreras, Anna Smith. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière escale de la série Les grandes expéditions scientifiques. Nous vous emmenons pendant une heure à la cime des arbres, en Amazonie, en Afrique, en Asie, avec l'architecte Gilles Ebersolt et le biologiste Maurice Leponce. Une heure avec ses membres de l'équipe d'Opération Canopée, qui depuis 30 ans observe notre monde à 50 mètres d'altitude et étudie la diversité de la faune, de la flore, des canopées, des forêts primaires tropicales humides, sur leur radeau des cimes et d'autres engins. Départ immédiat dans les airs avec le reporter et producteur Robert Arnaud en 2001.
Ouais, ça va être super bon matin.
Ouais, super.
Par contre, faut pas traîner. Hein. Ça va chauffer de bonheur.
Les chercheurs ont déjà pris leur petit déjeuner et au boulot. Alors n'oublions pas la radio, les lampes frontales, les gants, la batterie de secours, les sacs, les appareils de photo, les boîtes à outils. Voilà, sur la piste, les hommes préparent déjà le dirigeable. Il faut allonger les 50 mètres de l'enveloppe. Il faut larguer les rabans, fermer les trappes, assurer les mousquetons, et le gonflage commence. En 5 minutes, l'ectoplasme monstrueux prend une allure de baleine. Les dérives se transforment en airbag. Les brûleurs crachent comme des lance-flammes. Le dirigeable se met à vivre. Il tire sur les amarres. Alors reste à fixer la nacelle. Deux grosses coques d'alu et le tout dirigé par un moteur de 120 chevaux. Les pilotes, Danny et Jean, mettent leurs gants, le casque et ils branchent la radio. Alimentation en gaz branchée. Ok, voilà. Le dirigeable est autonome et va pouvoir s'élever au-dessus de la canopée en emportant une étrange structure. C'est le radeau des cimes inventé par Gilles Ebersolt, architecte. C'est un hexagone de 80 mètres de périphérie au centre duquel convergent 6 pontons pneumatiques séparés par des filets et maintenu rigide par 6 autres pontons pneumatiques qui forment en somme 6 triangles équilatéraux, une sorte de grand radeau de marine. Et le dirigeable peut l'emporter, le poser où il veut, sur les cimes des plus grands arbres. D'ailleurs, c'est la manœuvre que préfère Gilles.
Un reportage de Robert Arnaud à la cime des arbres en 1991. Bonjour Gilles Ebersolt, c'est vous qui avez inventé avec des amis ce radeau des cimes. Nous vous recevons aujourd'hui avec Maurice Leponce, biologiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'un et l'autre la naissance du radeau des cimes ?
Oui, bonjour Arnaud. Alors effectivement, c'est un projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec mes deux autres camarades, donc Francis Allais, bien sûr, qui est botaniste, et puis Danny Clé-Marel, qui est pilote et aussi concepteur d'aérostat. Et cette histoire, enfin ce projet, en fait, a démarré en 86, c'est-à-dire il y a maintenant 30 ans. On devrait fêter le 30e anniversaire de cette aventure scientifique. Et voilà, donc l'histoire après, moi j'avais fait un travail en tant qu'étudiant en fait sur ce thème, puisque j'ai présenté mon diplôme d'architecte sur le fait d'habiter en quelque sorte sur le haut des arbres, et qu'il était possible de flotter sur les arbres comme on flotte sur l'eau. C'était juste une question de dimensionner correctement l'esquif qui servait de support aux usagers. Voilà, c'était ça un petit peu ma thématique, c'était une thématique expérimentale et un petit peu poétique. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc les deux personnes que je viens de citer. Et donc, on a pu ensemble construire ce projet et puis rester vivant pendant 30 ans, ce qui est déjà pas mal.
À l'époque, le souci scientifique, l'intérêt scientifique est déjà présent dans la construction du radeau des Cimes.
Alors, l'intérêt scientifique est présent dans la motivation de Francis Allais. Donc, le professeur Francis Allais, botaniste, lui a toujours été persuadé de l'intérêt de l'étude des canopées et confronté à la réalité d'accéder à cette zone de la forêt distante environ de 30 à 50 mètres du sol. Donc c'est pas si facile d'y aller. Bon, on a toutes sortes d'autres moyens que le radeau, mais à l'époque, disons qu'on a ouvert des nouvelles perspectives à la communauté scientifique.
Comment se déroulent les premières expérimentations, les premiers essais de ces radeaux des Cimes?
Alors, c'est ce qu'on appelle des expérimentations et des essais. Alors, effectivement, dans ce genre de domaine, quand on explore, disons, la technique, on n'a pas, si vous voulez, derrière soi des notes de calcul suffisamment précises pour garantir totalement le succès des opérations. On est dans le domaine expérimental.
Elles se déroulent où, ces expériences? Dans la Creuse, dans la forêt de Fontainebleau?
Alors, la toute première expérimentation, on l'a faite dans le massif du Pilat, près de Saint-Chamond, et donc ça c'était très, très, très intéressant, mais bon, assez éloigné en réalité de l'expérimentation finale. Enfin, la vraie expérimentation qu'on a faite dans le domaine scientifique, et plus précisément dans le domaine tropical, c'est donc avec Francis et Dany en Guyane en 1986, où on s'est retrouvés avec notre matériel, et puis bon, bah voilà, on a essayé de faire marcher tout ça, et ça, il y a eu un coup bon, et puis un coup un peu moins bon. Mais enfin, globalement, c'était très intéressant, en tout cas suffisamment pour générer la construction du dirigeable, dont on a entendu ce joli témoignage, et générer la fabrication du nouveau radeau qui a été si bien décrit par votre collègue.
Maurice Leponce, est-ce que cette idée du radeau des Cimes vous faisait rêver, enfant?
Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, c'est de l'ordre du Jules Verne. J'ai toujours adoré les romans de Jules Verne et tous les récits d'aventure. Et la biologie m'a toujours, en particulier tropicale, m'a toujours fasciné avec la diversité biologique extraordinaire qu'on trouve, toutes les formes de vie de la forêt tropicale. Et en plus, avoir cette dimension quasi onirique de pouvoir voler au-dessus de la forêt, de se poser dans un arbre, c'était vraiment le summum. Je pensais jamais que ce rêve serait accessible pour moi. Et cela a été à un certain moment en 2003 à Panama où j'ai été contacté et où j'avais une semaine pour répondre, mais j'ai répondu dans les 3 minutes après avoir reçu le mail, tellement j'étais enthousiaste. Pour moi, c'était inconditionnel. Je devais absolument participer à une expédition de ce type-là.
Quel a été votre parcours pour arriver à monter jusqu'à la cime des arbres? Est-ce que vous étiez déjà, vous aviez construit des cabanes, des petits labos expérimentaux sur la cime des arbres?
Ah non, c'est tout le contraire. En fait, je suis très peu sportif. J'arrive à peine à monter à une corde. Et donc, je me suis retrouvé à Panama. Bon, ce qu'il y avait d'intéressant dans l'expérience à Panama, c'est que l'idée, c'était que tous les scientifiques devaient expérimenter un peu tous les moyens d'accès à la canopée. Donc, on a eu des écoles de grimpe, etc. Moi, je n'y ai pas participé. J'ai pu monter dans un des ballons, qui est la bulle des Cimes, qui est un ballon rempli d'hélium, monopassager. Donc, on est assis dans un petit siège. On est équilibré en apesanteur, finalement, puisqu'il y a un ballast, un réservoir d'eau au-dessus de soi. L'hélium, en fait, par la force d'Archimède, comme c'est un plus léger clair, vous pousse vers le haut. Et on équilibre en fonction du poids de chaque passager en mettant ou en enlevant de l'eau de ce ballast. Donc on part en apesanteur, en se hélant le long d'une corde, et on se retrouve dans la cime des arbres avec les singes qui vous regardent avec étonnement, etc. Mais voilà, ça c'était l'expérience avec la bulle des Cimes. Et puis il y a eu le radeau, on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de monter là sur ce radeau ?» Je dis « Oui, forcément, mais je n'avais jamais grimpé à la corde. » Et ça a été très très pénible. En fait, ils croyaient que je n'y arriverais jamais. Ils m'avaient dit, pour me rassurer, « On ne viendra pas te chercher. » Donc continue à grimper, et finalement j'y suis arrivé. Et là, c'était la récompense absolue. Enfin, on se retrouve sur la structure avec le filet qui est tendu entre les différents pontons. C'est étonnant parce qu'on marche sur les feuilles d'arbres. C'est une sensation tout à fait irréelle. Et ce qu'il y a de frappant, c'est quand même la chaleur qu'il y a au-dessus de la forêt. Et à partir de midi, ça devient quand même très difficile de rester à cet endroit de la forêt, je dois dire.
Pourquoi est-ce qu'on monte à la cime des arbres ? Pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas depuis les racines, depuis le sol ?
C'est très différent de ce qu'on trouve au sol. En fait, la radiation solaire est beaucoup plus intense là. Donc la photosynthèse est aussi beaucoup plus importante. Ce qui est important pour les insectes qui se nourrissent des feuilles, etc. Ça provoque même parfois des mutations dans les feuilles, des choses que Francis Allais a étudiées. Et au fur et à mesure qu'on descend vers le sol, donc on a 30 ou 40 mètres de gradient de conditions avec une très forte chaleur, très forte luminosité, ça peut être assez sec comme condition là. Tandis qu'au sol, les conditions sont beaucoup plus tamponnées. En fait, il n'y a pas de grands coups de vent, par exemple. L'humidité est assez forte et constante. La température est un peu plus basse. Donc, ce sont des conditions plus tamponnées, plus humides, qui favorisent certains organismes. Mais qui, en fait, dans une forêt, c'est ça qui est intéressant, qui génère la biodiversité, c'est que on a toute une variété de conditions qui permettent l'installation de différents organismes, qui s'installent et créent des conditions favorables à d'autres organismes. Donc ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus fin. Et c'est pour ça que cette biodiversité utilise de manière optimale tous les apports en ressources, que ce soit lumineux ou eau, par exemple, qu'offre le milieu. Et c'est pour ça qu'il y a une diversité extraordinaire qui finit par se développer dans ce genre de système. Et c'est ça qui nous passionne, évidemment.
Et nous repartons à la cime des arbres en compagnie de Francis Allais, reçu par Zoé Varier en 2012.
Alors voilà, nous sommes ici sur le boudin qui fait le tour du radeau des cimes. Vous voyez, un boudin qui est au-dessous gonflé d'air, tout à fait solide et rassurant. Je suis posé sur un filet en kevlar qui m'inspire confiance. Et donc voilà nos plantes, voilà les plantes qu'on est venu chercher.
Eh ben c'est bon celui-là.
Ça va, c'est là.
Oui, t'as mis pendu.
C'est suspendu.
Dany, notre pilote, fait ici la surprenante expérience de la fragilité des arbres pionniers qui constituent la forêt secondaire ou forêt dégradée. L'aide d'un puma de l'armée de l'air a été nécessaire pour sortir le radeau de la canopée trop fragile de la forêt secondaire.
Il faut dire que on n'avait pas de guide. Personne ne pouvait nous dire comment il fallait faire, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et donc, là, je dois dire que je n'ai pas très bien joué. J'ai demandé à Dany de nous poser sur une forêt secondaire, parce que c'est moins haut, c'est 20 mètres. Je me suis dit, comme ça, si on tombera de moins haut. Très mauvais calcul, parce que les arbres de la forêt secondaire, ce qu'on appelle les arbres pionniers, c'est des trucs qui poussent très vite et qui ont un bois très mou. Et au bout de 3 jours, notre pauvre plateforme, elle était quasiment enfoncée dans la forêt. Il a fallu faire appel à l'armée. Enfin, ça a été un bien, c'est pas possible. On l'a remis dans la savane. On est reparti avec, et ce coup-ci, on est allé se poser à 40 mètres de haut sur une forêt primaire. Et là, c'est parfait, c'est solide. On a eu un nombre incroyable d'incidents, mais jamais d'accidents.
Gilles Ebersole, qu'est-ce qu'on apprend de ces incidents lors des missions du radeau des cimes?
Eh bien, c'est le développement par l'expérimentation, c'est-à-dire que on soumet des équipements à des contraintes extérieures, comme par exemple les arbres de différentes qualités, et puis on apprend que bon, bah voilà, il faut éviter les forêts secondaires, il faut éviter, pour être précis, les cécropias. Alors, les cécropias sont des arbres pionniers dont parlait Francis et qui ont la particularité d'être, je crois, des très bons logements pour les fourmis, parce qu'ils utilisent les canaux intérieurs pour circuler. Mais les canaux intérieurs sont un signe de fragilité. et qui permet aussi à l'arbre de croître rapidement. Donc les cécropias, surtout pas. Après, évidemment, on n'a pas eu que cet incident-là. Ça, c'était le premier arbrissage officiel avec la montgolfière de Dany. Ensuite, on a assez vite constaté, avec Francis et Dany, que bon, bah, il fallait que le radeau et son système de portage, son ballon à air chaud, soit dirigeable. Donc, c'est à l'issue de cette mission en 1986 qu'on a développé le dispositif dirigeable qui permet de choisir le site de pose. Voilà, donc ça a le grand bénéfice, bien évidemment, l'amélioration qu'il y a eu entre 1986 et 1989. Ça date un petit peu, mais bon, en tout cas, voilà, c'était d'avoir un dispositif dirigeable. Et donc, c'est le ballon dont on parlait au début de l'émission.
Alors, vous parlez d'arbrissage. Est-ce qu'on peut faire des arbrissages absolument partout ?
Alors, effectivement, on a été amené à, déjà pour parler du terme, à inventer des termes, à inventer des nouveaux mots, parce que c'est évidemment quand on développe des choses qui n'existaient pas préalablement, on essaye de trouver des mots qui les désignent. Donc l'arbrissage, effectivement, c'est l'action qui consiste à se poser par le dessus sur les arbres. Alors, le concept, c'est de dire la forêt vue par le haut est un océan vert, donc on pourrait avoir l'impression qu'on peut se poser n'importe où, comme un bateau flotte par définition dans n'importe quel point de l'océan. Mais bon, la réalité est tout de même un petit peu plus raide, c'est que non, c'est pas possible de se poser n'importe où. Il faut se choisir extrêmement bien l'endroit où on se pose. C'est vrai que vu de très haut, on a l'impression d'être dans un milieu continu, un peu comme une espèce d'ensemble de brocolis, de choux-fleurs, enfin comme une espèce de forêt de persil, si vous voulez, quelque chose qui semble très très continu. Mais quand on zoome vraiment et quand on vole avec Dany au ras des arbres, eh bien on voit bien qu'il y a beaucoup de trous. Donc il faut choisir la zone d'arbrissage avec beaucoup de soin et choisir non seulement la zone d'arbrissage, mais aussi la nature des arbres qui vont recevoir le radeau.
Maurice Leponce, en tant que biologiste, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant de ne pas pouvoir se poser partout ? Est-ce que c'est pas une étude finalement parcellaire de la forêt tropicale ?
Oui, c'est pour ça qu'ils utilisent en fait différentes méthodes d'accès. Donc il y a le radeau des cimes, mais il y a aussi les ballons, soit à air chaud, soit à hélium. Et en particulier la bulle des cimes qui se translate le long d'une corde qui est posée sur 2 kilomètres au-dessus de la forêt, permet d'atteindre selon une ligne, un transect, on appelle ça en termes techniques, tous les arbres sur le parcours. Donc ça permet d'avoir quand même accès à une grande partie de la canopée.
D'un point de vue scientifique, est-ce qu'on passe à côté de certaines espèces, à côté de certaines découvertes, en fonction du moyen qu'on utilise ?
Oui, enfin, il y a des moyens plus adaptés que d'autres. Par exemple, donc les ballons à air chaud et qui sont motorisés permettent d'atteindre certains arbres en particulier. Des modèles plus fixes comme la bulle des cimes, là le trajet est déterminé, mais on parvient quand même, par exemple pour la bulle des cimes, avec une corde, on peut donc quitter sa corde centrale, on appelle ça des cordes de vie en fait. On est accroché avec 2 mousquetons qui sont accrochés eux-mêmes sur le siège dans lequel on est assis, et il y a moyen d'aller à des arbres limitrophes et quand même d'explorer une zone assez importante de la forêt.
Est-ce qu'on se dit, tiens, j'ai envie de plus documenter telle espèce d'insecte ou de vivant à la cime des arbres, et donc je vais utiliser cet outil, cet engin ?
En fait, il faut savoir que ces engins ont été développés à l'initiative donc de Francis Allais, qui est botaniste. Et les botanistes trouvent ça très intéressant d'utiliser ces engins parce qu'ils ont accès aux parties fertiles des plantes, donc les fleurs et les fruits, qui permettent leur identification. Nous, entomologistes, ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est de voir les insectes qui visitent ces fleurs, ce qui est quelque chose qui est en général totalement hors d'atteinte pour nous. Donc en fonction effectivement de la thématique, on adapte le moyen d'accès.
Gilles Bersolt, est-ce que les écologistes, les écologues, les biologistes se tournent vers vous et qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement ?
En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on fasse un travail de, entre guillemets, commande. On sait qu'il y a une demande globale d'accéder à la canopée. Ensuite, avec Dany, parce que Dany s'occupe plus précisément de ce qui vole, moi je m'occupe plus de ce qui est entre volant et terrestre, c'est ce qui est sur la canopée. Ensuite, nous, on réfléchit à quelles sont les différentes réponses qu'on peut apporter. Et en général, il y a un dialogue qui s'établit. On explique par exemple à nos camarades scientifiques, écoutez, bon bah voilà, on peut mettre en place tel dispositif, qu'est-ce que vous y trouvez comme intérêt, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et voilà, donc c'est une forme de dialogue. Mais parfois aussi, on génère des dispositifs qui n'ont pas encore trouvé leur usage, ou on trouve des usages par hasard. Donc c'est comme ça que la luge des cimes a été créée. Par exemple, la luge des cimes est un outil complémentaire au radeau des cimes et qui est en fait extrêmement performant. Aujourd'hui, il se trouve que la luge des cimes est réformée parce que le dirigeable ne vole plus. Mais enfin, le concept a été très porteur et le concept de luge des cimes a été en fait, je dirais, identifié et développé un petit peu par hasard suite en fait à un échec. Donc, en fait, à la suite d'un échec de pose, d'un piège malaise dans la canopée, on a été confronté à la problématique d'essayer de récupérer un outil qui s'était un peu effondré, sans aucun risque, parce que c'était un outil qui n'était pas accessible à l'homme, juste qui contenait les fameux pièges malaises de nos amis entomos. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour accéder à ce piège tombé, effondré, grosso modo, entre 5 et 6 mètres sous la canopée. Dany, avec son dirigeable, avec les empennages, etc., il ne pouvait pas faire du rase-motte. Il ne pouvait pas faire du rase-motte sur la canopée. On est toujours obligé d'être un petit peu au-dessus. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai proposé d'utiliser un dispositif gonflable que j'avais édifié pour une autre raison. On a suspendu ça sous la nacelle du dirigeable. Et on a donc créé, si vous voulez, une espèce d'annexe à ce dirigeable suspendu au-dessous qui permet d'avoir le contact direct avec la canopée. Et on a pu renflouer de cette façon-là ce piège malaise et après plus personne n'en a parlé. Par contre, l'outil qui a servi à renflouer le piège malaise est devenu quelque chose de très performant qui s'appelle la luge des cimes et qui permet de cibler des objectifs très précis. Donc c'est un petit peu ce qu'a décrit Maurice tout à l'heure avec les performances de la cinébule, sauf que ça c'était l'époque du dirigeable, donc on pouvait mettre 3 personnes dans la luge des cimes et ça c'était un outil de recherche et de collecte extrêmement performant.
Vous pouvez nous décrire un petit peu la luge des cimes, hein?
Ah oui, mais c'est très facile. Imaginez le dirigeable, hein, donc un dirigeable à air chaud de 8500 mètres cubes avec la nacelle, avec son pilote, son copilote, éventuellement un passager. Et puis au-dessous de cette nacelle est fixé un câble qui est lui-même monté sur un treuil et environ 10 mètres au-dessous du dirigeable, c'est-à-dire affranchi, si vous voulez, de l'emprise des empennages, se trouve une nacelle qui fait environ, je dirais, une dizaine de mètres carrés, qui est une espèce de grosse corbeille à papier. Et à l'intérieur de cette nacelle vont prendre place 2 scientifiques et 1 cordiste en général, c'est-à-dire un technicien qui va assurer la sécurité à bord. Ensuite, dans le dirigeable lui-même, il y a un scientifique en général muni de jumelles. Et lui, il va identifier un objectif, notamment une inflorescence, par exemple. C'est-à-dire une fleur intéressante qui va dire, bon, ben voilà, il faut collecter cette fleur-là. Donc, il identifie, communique à Dany la direction. Le dirigeable fonce sur l'objectif et va ajuster sa hauteur de manière à ce que la luge des cimes vienne frotter l'objectif. Et à ce moment-là, nous, à bord, on collecte une ou, si possible, plusieurs fleurs, parce que pour faire une identification réussie, il faut une fleur, il faut une tige, il faut un bourgeon, enfin, il faut différents matériels pour réussir son identification. Donc, on fait ce qu'on appelle des collectes à la volée avec cette luge des cimes.
Alors, dans ces expéditions, ces équipes du radeau des cimes, il y a également des réalisateurs qui filment et qui expérimentent. Nous écoutons l'un d'entre eux tout de suite.
Cet engin, il a vraiment été fait pour ça. Il n'y a aucun engin au monde qui ressemble à celui-là, il y en a des tout petits. Mais de cette taille-là, et pour pouvoir transporter des charges comme ce qu'on fait actuellement, avec tous les gadgets qu'on a mis pour faire marche arrière, pour tourner plus facilement, tout ça, c'est vraiment le seul engin qui existe comme ça.
Les problèmes essentiels sont de pouvoir couvrir ces différents endroits, qui sont donc le radeau, sous le radeau, le camp, à partir du ballon et tout ça. Et c'était relativement difficile dans la mesure où on n'était que 3 et 2 à faire l'image. Et il a fallu vraiment très très bien orchestrer tout ça pour arriver à couvrir au maximum la chose. Nous avons eu deux fois un hélicoptère pendant des vols. Disons que les prises de vue particulières qui ont été faites, ça a été des prises de vue en pendulaire sur le bord du ballon, c'est-à-dire que sur le côté du dirigeable pendent deux cordes auxquelles sont fixés un harnais, et dans le harnais on met le caméraman, qui donc peut filmer la nacelle d'un point de vue qu'on ne pourrait pas avoir autrement, puisqu'un hélicoptère ne pourrait jamais s'approcher aussi près. Et ça permettait de filmer de nombreuses manipulations, dont le traîneau des botanistes, qui était un triangle de 6 mètres de côté avec du filet au milieu, sur lequel se trouvait l'ingénieur Gilles Ebersolt, qui prélevait des échantillons des cimes des arbres à la volée. Et tout ça a été filmé par Thierry Machado de son poste pendulaire sur le côté du dirigeable, ce qui lui permettait de faire des plans à la fois du triangle dans les arbres et de la nacelle avec les pilotes et les botanistes qui étaient à bord.
Antoine de Maximi qui vous a accompagné, Gilles Ebersolt et Maurice Lepons sur le radeau des cimes. Maurice Lepons, est-ce que l'image est importante? Le fait de filmer ces missions est une chose importante, tant du point de vue du choix de la destination que pour la recherche?
Une première chose, c'est que c'est tellement extraordinaire qu'on a envie de partager ce genre de moments avec le plus grand nombre. Donc, c'est évident qu'il faut faire des images lors de ces expéditions. Et cela sert un peu nos causes à la fois scientifiques et nos préoccupations de conservation des milieux, des forêts tropicales, évidemment, qui se réduisent maintenant comme peau de chagrin. Donc pouvoir démontrer toute la beauté de ces milieux, leur importance pour le bien-être de tous, parce que, par exemple, ils régulent le climat planétaire, etc., c'est vraiment fondamental. Donc, effectivement, les gens d'image sont les bienvenus, même si ça apporte certaines contraintes parfois dans le travail, mais ça n'est pas vraiment gênant.
Et du point de vue de la recherche, le fait de filmer ces missions?
Nous, ça nous aide parce que parfois on a des documents de très bonne qualité qui représentent des comportements qui nous intéressent à étudier un peu plus en détail par la suite. Mais sinon, il faut quand même être conscient que les chercheurs souvent aussi font beaucoup de documents de leur côté, mais qui n'ont pas évidemment la qualité des professionnels.
Quel type de documents, quel type de données est-ce que vous collectez lors de ces missions Radeau des Cimes?
Donc d'un point de vue image, effectivement, on filme des comportements. Par exemple, moi je suis spécialisé dans les termites et les fourmis qui vivent au sommet de la cime des arbres. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir, par exemple pour les fourmis, bon, Gilles évoquait que certaines fourmis attaquent parfois les visiteurs des cimes lors de leur passage. Et en fait, ces fourmis sont territoriales, c'est-à-dire qu'elles défendent une cime d'arbre ou plusieurs cimes d'arbre. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressources qui les intéressent, qui sont des ressources sucrées, qui sont apportées par la plante elle-même sous forme de nectar, ou alors par l'intermédiaire d'insectes comme des pucerons ou des cochenilles qui en fait sucent la sève de la plante et puis excrètent des petites gouttes sucrées. Donc pour les fourmis, ça apporte une ressource sucrée très importante et elles veulent protéger cette ressource vis-à-vis des autres fourmis. Donc par exemple, nous, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est de filmer les comportements, de voir ces cochenilles qui excrètent l'exuda, de voir les comportements entre les différentes fourmis qui sont parfois agressives entre elles, etc. Donc c'est toute une foule de documents images qui nous intéressent, mais le travail est surtout basé sur la récolte d'échantillons biologiques quand même, parce que comme la plupart des choses n'ont pas encore été décrites ou sont très peu connues dans ces milieux-là, il faut rapporter des spécimens qui sont étudiés en fait en laboratoire par la suite, et c'est là au laboratoire que le vrai travail commence. En fait, l'expédition dure parfois 2-3 semaines ou plus. Mais parfois, une journée de récolte nous occupe pendant des mois au laboratoire.
Est-ce que vous documentez aussi, Maurice Lepons, les interactions entre les personnes qui habitent dans ces forêts, qui vivent dans ces forêts, et leur milieu? Ou est-ce que vous intéressez uniquement aux insectes et aux arbres?
En fait, dans ces expéditions, il y a... C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une multidisciplinarité. Donc il y a des biologistes, mais il y a aussi des sociologues, des anthropologues, des architectes comme Gilles, des aéronautes. Et cette rencontre de toutes ces personnes nous apporte beaucoup. Et effectivement, donc, par exemple, il y a des anthropologues qui étudient ce qui se passe localement, mais qui étudient parfois aussi des sociologues qui étudient les scientifiques eux-mêmes, parce que on a une sorte on a des rituels, etc., dont nous ne sommes pas conscients, mais ça les amuse beaucoup de voir notre organisation sociale.
Par exemple, quel type de rituel dans l'équipe du Radeau des Cimes?
Par exemple, en soirée, on se détend un petit peu. Donc on a travaillé dur pendant la journée. Les conditions sont quand même des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes. Il pleut parfois très intensément. On est assez fourbu à la fin d'une journée. En général, il y a un petit moment d'apéritif assez sympathique en début de soirée. Et aussi, on échange un petit peu toutes nos expériences. Francis Allais, par exemple, anime des discussions où chacun est invité un peu à faire part de ses recherches et de ses résultats.
Et nous repartons avec l'équipe du Radeau des Cimes dans les années 90 sur la canopée.
Quand on arrive avec le radeau sur un site, Gilles et Bersol, donc lui, voyage toujours sur le radeau. Donc, à partir du moment où on pose le radeau, quand on repart avec le dirigeable, lui, il reste seul à bord. Et la première chose qu'il fait, c'est d'installer un système de cordes pour pouvoir être relié au sol. Donc, pendant ce temps, parallèlement, il y a une démarche de l'équipe au sol qui est en train de tracer un layon. Un layon, c'est un petit chemin dans la forêt. Donc, pour pouvoir accéder au radeau. Alors, ça, c'est pas toujours très facile. Parce que il y a un système de guidage par radio, mais c'est pas très simple quand on est en pleine forêt de retrouver à quelques kilomètres un radeau qui est posé sur les arbres. Donc eux au sol font ce layon, font des marques et arrivent quelque temps après sous le radeau. Et à ce moment-là, la jonction est faite. Donc il y a un système qui est installé pour pouvoir remonter et redescendre facilement du radeau. Quand on voit décoller ce truc, tout le monde dit « mais c'est Jules Verne, c'est pas possible, c'est Jules Verne ». Pleine forêt, une petite tente là posée sur un radeau, puis des gens qui s'activent, qui passent la nuit, quand on a fait un vol la nuit, hein, des lumières comme ça qui se déplacent, enfin c'est étonnant.
Gilles Bersolt, la nuit est-elle plus propice à ces vols, hein, à ces explorations avec le Radeau des Cimes?
Alors, en ce qui concerne le vol, effectivement, théoriquement, c'est propice parce qu'il y a en général moins de vent pendant la nuit. En général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'influence du soleil qui va créer ce que Dany appelle des thermiques. Donc, on vole avec le dirigeable très tôt le matin. Donc, en général, on décolle au lever du soleil. Ça veut dire qu'on se réveille une bonne heure et demie avant. Donc, l'expérience de la nuit, on la ressent bien évidemment dans les préparatifs. Maintenant, pour le vol avec le dirigeable, je laisserai Maurice parler de ses témoignages sur des vols de nuit avec la bulle des cimes. Mais en ce qui concerne le dirigeable, puisque c'est l'extrait qu'on vient d'entendre, eh bien, en général, on vole pas trop la nuit, même si techniquement ce serait possible, parce qu'il y a quand même une notion de sécurité. C'est-à-dire que, le jour, quand même, on y voit clair, c'est un petit plus, hein, faut reconnaître. De nuit, il n'y a aucun balisage, c'est tout de même, on n'a pas des phares très puissants, même si on peut éclairer localement. Donc, en général, on vole pas très souvent en dirigeable de nuit. Par contre, de nuit, on a des expériences fantastiques, parce que les équipements, une fois en place, alors là, je vais plutôt parler du radeau, mais enfin c'est valable aussi dans d'autres dispositifs comme l'ICOS ou l'étoile des cimes, on peut dormir dans les équipements. Alors, pour moi, dormir dans un équipement, c'est une fin en soi, je dirais, parce qu'en tant qu'architecte, je pense que l'appréciation d'un espace, il doit se faire de jour comme de nuit, donc j'apprécie simplement le fait de dormir sur place. Pour les scientifiques, il y a un autre bénéfice, c'est que s'ils dorment sur place, eh bien, le matin, ils sont à pied d'œuvre, à des heures où théoriquement, il fait un petit peu moins chaud, etc. Donc voilà. Mais pour moi, là, le fait de dormir dans la canopée, c'est très, très enrichissant. Alors, il y a plein de sens qui sont simulés par ce moment nocturne. Et je dirais que le plus intense, c'est le son. Alors, le son, ce qui est très étrange, c'est quand on dort sur le radeau des cimes, notamment, on s'installe tant bien que mal au milieu d'un grand filet, donc au milieu d'un espace qui fait quand même 600 mètres carrés, donc on a le choix, si vous voulez. On est suspendu dans un espèce de hamac gigantesque. Donc on s'installe avec un normal, quoi, un duvet, une petite toile par-dessus. Et là, la première sensation qu'on a, c'est le son, en fait, il vient du dessous. Donc ça, c'est vraiment une chose très, très, très étrange que d'entendre le son qui vient du dessous. C'est assez rare, en fait. Parce qu'en général, le son, ça se transmet de façon horizontale, ou peut-être on entend un avion passer au-dessus de sa tête, mais en général, venu du dessous, à part le métro, je dirais qu'on entend gronder de temps en temps, on entend rarement le son venu par-dessous. Et puis en plus de tout ça, quand on est installé au milieu de ce radeau, ben on a un peu l'impression d'être installé au milieu d'un haut-parleur, si vous voulez. Donc le filet, c'est un peu comme une gigantesque baffle, donc on a l'impression d'être au centre d'un dispositif sonore gigantesque, et bien évidemment le son qui vient de dessous. Alors Maurice pourrait sûrement détailler tout ça, mais bon, c'est une foultitude d'insectes. Il y a parfois même des bestioles qui marchent, on entend des bruissements de feuilles, enfin il y a toute une animation nocturne qui est extrêmement intense, et je dirais qu'il révèle peut-être plus de vie la nuit que de jour, à cause de la dimension sonore, parce qu'en fait les insectes, Maurice, il les voit, mais moi, personnellement, je les vois quand ils me piquent. Mais je veux dire, j'ai pas la vision focalisée sur les insectes. Moi, je regarde plutôt mon équipement, la sécurité, tout ça. Mais la nuit, les insectes, je veux dire, je suis avec eux. Et puis, je les entends monter comme ça. Bon, enfin, voilà, ça, c'est le côté ludique du son. Bon, après, le côté moins drôle, si vous voulez, c'est si vous dormez sur le radeau des cimes, ça consiste un peu quand même à passer une nuit dans une serpillière, parce que, bon, c'est quand même assez humide. Souvent, il y a des petites pluies pendant la nuit, etc. Donc, voilà, il y a parfois des inconforts qui sont compensés par d'autres équipements, donc notamment l'ICOS, qui est une structure rigide en aluminium, ou l'étoile des cimes, qui présente un abri beaucoup plus fiable. Donc après, moi, j'ai développé un petit peu ce côté nocturne, du moment passé pendant la nuit et du confort qu'on peut avoir quand on est installé dans ces dispositifs en canopée.
Et vous avez partagé ces expériences nocturnes avec des personnes qui habitent dans ces forêts ?
Alors, les personnes qui habitent, alors là, vous parlez sans doute des habitants. Alors, ça, c'est très particulier, les relations avec les habitants, si vous voulez. Alors, je ne sais pas très bien desquels parler. Bon, si on parle du Cameroun, par exemple, puisqu'il y en a des témoignages, c'était au Cameroun. Eh bien, les habitants des forêts, bah, c'est les pygmées. Gens qui vivent dans des sortes de clairières, qui font de l'agriculture, ou un petit peu d'élevage, bon, tout ça à petite échelle, parce qu'on essaye quand même de trouver des sites qui sont un petit peu hors de ce qu'on appelle la pression humaine, parce que le but, c'est, on est plus attiré, si je puis dire, par les disciplines, genre botanique, entomo, on n'est pas forcément vers les sciences humaines, en quelque sorte, même si on s'intéresse à ces phénomènes-là, bien sûr. Donc, en général, on a peu de contact avec les populations locales, quand on est en forêt. Et puis, pour vous dire franchement, les pygmées, nos trucs dans les arbres, c'est comme un Boeing qui passe en l'air, quoi. C'est un autre monde, en fait, si je dis la vérité. Je pense que ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent sur Terre, ils chassent, ils ont leurs contraintes de vie, les rêves de nos amis scientifiques ou des architectes, des pilotes, tout ça, disons-le, c'est un autre monde.
Et nous repartons en vol de nuit avec le radeau des cimes.
Il y a eu un vol de nuit qui devait normalement permettre d'intercepter les insectes volants avec ce qu'on avait appelé un chalutage de nuit, c'est-à-dire qu'on avait fixé un immense filet à papillons sous le dirigeable et il s'agissait de voler un petit peu au-dessus des arbres pour intercepter les insectes qui volaient. À vrai dire, il y avait des conditions qui étaient relativement pas évidentes dans la mesure où il fallait déjà voler par une nuit sans lune, pour que la lune ne fasse pas concurrence au projecteur qui était sur le dirigeable, pour attirer les insectes. Et d'autre part, il y avait également du brouillard. Ce qui fait qu'au début, il a fallu monter très haut avec le dirigeable et redescendre progressivement pour enfin découvrir les arbres dans la brume. Et il faut savoir que c'était dans un coin où il y avait plusieurs collines et que le dirigeable donc volait plus bas que ces collines. Et bon, il y a une inertie qui est assez importante pour monter ou descendre. Et ce qui fait que c'était quand même assez risqué et que le chalut a touché une fois la cime des arbres. Enfin, ça a été un très, 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 très émouvant. Et surtout, les prises de vue qui ont été faites lors de cette manipulation sont vraiment très, 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 très belles. Le dirigeable fait 7500 mètres cubes. Les brûleurs illuminent complètement l'enveloppe pendant les coups de chauffe. Et c'est comme si vous aviez un lampion qui vole, qui fait 7500 mètres cubes. Pour la petite histoire, ça n'a pas très bien marché. Il y avait effectivement des insectes qui rentraient dans le filet, mais comme il n'y avait aucun dispositif pour les empêcher d'en ressortir, quand le dirigeable s'est posé, il y avait 4-5 papillons. C'était pas très réussi. Mais c'est d'ailleurs tout l'intérêt du radeau des cimes, parce que finalement, toutes les opérations qui sont faites avec le radeau des cimes sont expérimentales. Donc, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Toujours est-il que je pense que le bilan global de la mission est tout à fait positif.
Maurice Le Ponce, pour un biologiste, la nuit, c'est le moment d'expérience ultime?
En fait, on s'attaque à une autre partie de la faune de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'organismes qui attendent la nuit pour être actifs. Par exemple, on a des camarades qui cherchent des phasmes, qui sont des insectes brindilles, ou des blattes, ou des araignées. Et en fait, c'est le moment le plus propice pour les chasser. Donc les araignées, par exemple, chasseresses, ont des grands yeux qui, lorsqu'on les éclaire, en fait, réfléchissent la lumière. Donc c'est un moyen très facile de les détecter, de les capturer. Pour les blattes, en fait, elles commencent un peu à s'égayer alors, au niveau du sol et peuvent être capturées. Sinon, c'est des organismes qu'on ne voit pas du tout. Et donc, il y a un rythme d'activité des biologistes qui est adapté à celui des organismes qu'ils étudient, bien sûr.
Quel type d'organisme est-ce que vous avez découvert la nuit sur la canopée, Maurice Le Ponce?
Il y a certaines fourmis, par exemple, qui sont actives la nuit. Donc, finalement, le même arbre, le jour et la nuit, voit une faune active qui est différente. Elle est très cryptique pendant la journée et sort la nuit. Donc, il y a parfois des grandes fourmis charpentières qu'on trouve que la nuit, etc. Donc, c'est très intéressant parce que ça donne une image plus complète, en fait, de la faune de la forêt. On trouve des choses qui n'ont peut-être jamais été étudiées, justement, parce qu'on n'a jamais été actif à la fois dans ce type de milieu et à ce moment-là de la journée.
Alors, on est dans le domaine de l'expérience, de l'expérimental. Qu'est-ce qui reste encore au bout de 30 ans d'expérience du radeau des cimes à découvrir, à explorer, à expérimenter?
Déjà, pour amener un témoignage complémentaire à celui de Maurice, il faut bien savoir que notre spécialité, enfin celle donc d'Opération Canopée, qui est l'ONG qui gère en quelque sorte la mise en place de ces projets, ben c'est d'essayer de proposer un accès 24 heures sur 24 à la canopée. Donc pour réussir ce challenge, on doit multiplier les dispositifs qui permettent d'accéder à cette canopée. Donc il y a des dispositifs volants qui sont limités par des situations climatiques, le vent, etc., le soleil, etc. Et il y a des dispositifs semi-fixes, et puis il y a même des dispositions beaucoup plus simples qui consistent simplement à marcher en forêt avec un grimpeur muni de ce qu'on appelle un big shot, c'est-à-dire une espèce de méga fronde qui va permettre d'envoyer une corde fixe en canopée et de monter chercher un échantillon identifié depuis le sol. Donc si vous voulez, notre métier à nous, c'est effectivement de faire des très belles opérations comme celles qui ont été décrites et qui sont très spectaculaires, mais c'est aussi de garantir cet accès permanent à la canopée par des systèmes plus traditionnels aussi d'ascension, etc., parce qu'on ne peut pas en permanence voler. Il y a des limites de sécurité et de climat. Alors voilà, maintenant, pour continuer sur la partie prospective, il faut déjà préalablement expliquer que le nom générique connu par tous, c'est radeau des cimes, qui désigne en fait un objet théoriquement, qui est une plateforme qui se pose au-dessus des arbres, qui est déplacée par un dirigeable. En fait, ce dispositif, aujourd'hui, il est pratiquement réformé au profit de dispositifs beaucoup plus légers, beaucoup moins coûteux à mettre en place, donc, et ça c'est aussi un objectif, c'est de travailler vraiment. Donc quand on veut vraiment travailler, il faut qu'on puisse travailler souvent, donc il faut réduire les coûts, ça fait partie de nos préoccupations, et multiplier les systèmes plutôt que d'avoir une énorme chose, vous voyez. Donc le radeau des cimes c'est une grosse chose, le dirigeable aussi c'est une grosse chose, et là maintenant on essaye d'avoir des équipements plus légers, plus faciles à activer, qui nécessite moins de personnes sur place. Donc c'est maintenant un petit peu sur ce thème-là qu'on travaille, et c'est un peu sur ce thème-là qu'on a monté l'expédition qui s'est déroulée au Laos en 2012. C'est-à-dire une empreinte aussi sur le site, plus légère, et moins de transport, moins de logistique, et une approche véritablement permanente sur la canopée.
Et c'est lié à la réglementation internationale qui évolue elle-même ?
Non, je dirais que personne nous empêche de mettre en place, de déployer des moyens importants. C'est lié aussi à un désir peut-être de l'ensemble de l'équipe à réduire aussi ce qu'on pourrait appeler le bilan carbone, c'est-à-dire qu'il y a un moment où peut-être qu'il faut réduire aussi ses consommations de façon générale, et que si nous on s'intéresse à la conservation des forêts, il faut peut-être aussi essayer de pondérer un peu notre impact sur le site. Donc on a eu cette préoccupation-là. Bon, bah, le corollaire de ça, c'est que les coûts sont moins forts. Si les coûts sont moins forts, la probabilité de monter un projet est plus importante. Mais enfin, pour rester maintenant dans la dimension projet, dans la direction qui, moi, m'intéresse et me motive, c'est bien évidemment la partie constructive expérimentale. Donc c'était ça votre première question. Donc effectivement, dans ce domaine-là, il y a plein de choses à faire encore. On est bien loin, d'abord, d'avoir éclusé, si je puis dire, le potentiel recherche de la canopée en termes scientifiques. Et on est bien loin aussi d'avoir expérimenté la totalité des moyens possibles et pour mettre en œuvre cet accès privilégié. Donc actuellement, on travaille sur un projet qui consiste à mettre en réseau nos systèmes d'accès en canopée. Ça s'appelle Station Canopée.
Maurice Lepons, qu'est-ce qui reste à découvrir en haut, sur la canopée, en haut des arbres ?
En fait, en termes de diversité biologique, ça reste gigantesque. Quand on étudie par exemple les mouches qui volent en canopée, 60% des espèces qu'on récolte sont nouvelles. Donc ça, c'est de l'ordre de la connaissance taxonomique, comme on dit ça, c'est-à-dire les différentes espèces. Mais il y a des dimensions supplémentaires qui peuvent être vues, c'est-à-dire d'un point de vue écologique, c'est étudier les interactions entre ces espèces. On peut avoir aussi des spécialistes qui étudient plus la chimie de la canopée. Il y a des tas de substances organiques volatiles qui sont émises par ces forêts. En fait, c'est presque infini. Sur Terre, plus de 80% des espèces sont encore totalement inconnues. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de limite. On est plutôt au commencement qu'à la fin de l'exploration.
Merci Gilles Ebersolt et Maurice Lepons pour ces voyages à la cime des arbres. La série Les grandes expéditions scientifiques se réécoute et est disponible en podcast sur franceculture.fr. Cette série vous a été proposée en partenariat avec Science et Vie. Une émission produite par Arnaud Contreras. Réalisé par Anne Asmuc, prise de son Nadège Antonini, mixage Jean-Louis Delon. Tremendo bate, Sánchez.